Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode du podcast de la French Tech de Toronto. C'est David Manetti et je vais vous accompagner tout au long de ce podcast. Nous allons avoir le plaisir de recevoir Alex Raguet, le président de la French Tech d'Austin, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe dans le Texas. Et ensuite, un bel échange avec Sébastien Gendron, qui est le cofondateur et le CEO de la société Transpod, société extrêmement innovante, voire un petit peu futuriste pour des quarantenaires comme je suis. Mais pour commencer, un petit point sur les actualités de la French Tech et en tout premier lieu, un nouveau podcast, le petit frère du podcast de la French Tech de Toronto, celui-ci totalement dédié à l'ESG, animé par Colline Roux, la vice-président de la French Tech de Toronto dédié à l'ESG. Donc, vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify et bientôt sur d'autres, sur les autres plateformes. Et si jamais vous ne le trouviez pas, n'hésitez pas à nous contacter. On vous transmettra le lien pour l'écouter. Autre actualité qui arrive très très vite, à savoir le 21 mars, c'est la fresque du climat avec beaucoup de communications qui ont été faites sur LinkedIn. Donc, si jamais vous voulez vous y inscrire encore, n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn et à chercher la French Tech Toronto. Il y a beaucoup de communications et vous pourrez trouver toutes les informations à ce sujet-là. Et enfin, l'événement de l'année, le Summit de la French Tech de Toronto qui se déroulera cette année à Casoloma. On attend 600 personnes pour échanger autour de deux thèmes principaux, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Donc ce sera le 28 mai à partir de 18h30 à Casaloma. Mais en attendant, je vous propose qu'on commence par un échange avec une French Tech d'ailleurs. Et ce mois-ci, pour ce mois de mars, ce sera avec la French Tech d'Austin et son président Alex Revy. Pour ce troisième épisode du podcast de la French Tech de Toronto, j'ai le plaisir de partir à la découverte de la French Tech d'Austin et de recevoir Alex Raguet pour nous parler un petit peu de ça. Alex, qui est membre du bureau de la French Tech. Bonjour Alex.
Bonjour David.
Alex, je suis ravi de te recevoir. Comme tu sais, j'ai reçu tes collègues de la French Tech New York et de la French Tech Miami lors des deux précédentes éditions. Et je vais commencer par le traditionnel. Ben, qui es-tu? Présente-toi.
Bonjour David, donc Alex Raguet, coprésident de la French Tech Austin depuis la fin du Covid, on va dire, avec un passé d'entrepreneur dans les années 2010. Donc en France, où j'ai justement vu le pouvoir, enfin, le changement qu'était le mouvement, la mission French Tech à Paris, puisque ma startup avait été incubée à l'espace de BPI France. Et donc quand je suis arrivé à Austin en 2019, je me suis tout de suite rapproché de la French Tech Austin pour en devenir président. Je suis dans la vie active, je suis aussi 4 jours par semaine venture partner pour un fonds climate tech basé à New York avec des équipes en Europe.
Très bien, merci. Et donc, du coup, oui, climate tech, c'est quelque chose qui est plus dans le climat, qui fait du sens quand on vit au Texas. Et du coup, bah, est-ce que tu peux me présenter un petit peu la French Tech Austin et son bureau aussi?
Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, je suis coprésident. La coprésidente est la consule honoraire de France à Austin, Liz Wiley. Et donc, on est 8 bénévoles au bureau avec un mix d'entrepreneurs, jeunes, moins jeunes, et des représentants des institutions françaises aussi au Texas. Donc, on a le consulat et la chambre de commerce, la FACC, French American Chamber in Texas, puisqu'on a fait le choix à Austin comme à Houston d'ailleurs, les deux French Tech au Texas sont chapeautés par la FACC et on travaille ensemble.
Et qu'est-ce qui fait les spécificités de la French Tech à Austin?
Alors les spécificités, donc moi je verrais plusieurs spécificités. La première, c'est que on a été créé au début du mouvement, puisque Austin était une ville très tech dès les années 2015. Mais depuis le Covid et l'arrivée d'Elon Musk, il y a eu un vrai boom autour d'Austin. Et donc, on a beaucoup de boîtes françaises, de startups françaises qui nous posent énormément de questions sur qu'est-ce qui se passe vraiment à Austin et est-ce que j'ai intérêt à venir à Austin? Comme un peu Miami, Denver, Portland. Il y a 10-15 ans, une startup française regardait vraiment New York et San Francisco. Et maintenant, on a beaucoup plus d'intérêt de ce côté-là. Alors, une autre spécificité de la ville d'Austin et qu'on entend souvent chez les startups qui ont décidé de s'installer ici, c'est sa localisation au centre des États-Unis. C'est-à-dire que d'Austin, on peut être en 3-4 heures à peu près partout aux États-Unis. Alors, il n'y a pas encore de vol direct entre Paris et Austin, mais une fois qu'on est en local, on peut vraiment voyager très facilement. Et donc, les équipes qui ont des forces de vente, qui en général commencent à New York et se rendent compte assez rapidement qu'il leur faut aussi une force de vente sur la côte en Californie, doublent les effectifs, enfin, ont des problématiques que certaines startups ont résolues en venant s'installer à Austin, avec bien sûr toute la qualité de vie et d'autres avantages que la ville a. Donc,
D'accord. Et
il y a vraiment toutes ces
tu
spécificités.
me parlais d'un événement qui était également une spécificité, qui était également quelque chose d'important pour toi et qui arrive dans ce mois de mars.
Oui, on a la chance à Austin d'avoir South by Southwest, qui est un événement très important dans l'innovation, donc innovation musicale, enfin un festival de musique qui est devenu, depuis le lancement de Twitter, un énorme événement autour de l'innovation, 350 000 personnes pendant 10 jours à Austin. Et c'est un événement phare pour notre association, puisqu'on prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Comme je le disais, il y a beaucoup de startups françaises qui viennent à South by. Et on fait tout pour leur faire rencontrer l'écosystème d'Austin que nous, on côtoie à longueur d'année. Donc, on travaille avec la BPI Business France pour faire un événement sur plusieurs jours, enfin plein d'événements pendant plusieurs jours pour que les startups qui viennent à South by rencontrent le maximum d'échanges avec l'écosystème. Et ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Et oui, c'est une spécificité. South by devient un peu pour la French Touch, pour les énergies, pour les industries créatives et culturelles, qu'est le CES pour la French Tech et toutes les startups très technologiques qui ont des services et des produits qui collent mieux avec le salon du CES.
Eh bien, donc, tu m'as fait une proposition originale que je trouvais intéressante. Aujourd'hui, on est le 6 mars quand on enregistre cette émission. Et tu m'as proposé de revenir vers toi un peu plus tard lorsque l'événement serait passé pour que tu me donnes un petit peu les résultats de ce qui s'y est passé. Et ben, je te propose qu'on se retrouve à ce moment-là et que tu me dises et qu'on close notre rencontre ce jour-là. Comme ça, tu me diras plus précisément ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et en espérant que ce soit, et j'en suis convaincu, que ce soit un énorme succès. Je te dis donc ben, à tout de suite, mais à dans une semaine du coup.
Rebonjour Alex Raguet. Pourquoi rebonjour? Parce que ben, on se retrouve une semaine après notre première discussion. Le South by Southwest, l'événement phare de Austin, a commencé et en cours, et les événements liés à la French Tech viennent de se terminer. Donc, comment ça s'est passé pour la French Tech et comment se passe cet épisode du South by Southwest de ton point de vue?
Rebonjour David. Ben, l'édition 2024 de South by pour French Tech et la French Touch et toute la délégation française s'est très bien passée. Il y avait à peu près 70 entreprises ou personnes qui accompagnaient ces entreprises qui sont venues, qui sont passées 3, 4 jours à Austin avec énormément d'événements pendant le festival et en dehors du festival. Le gros de la délégation était composé d'entreprises ICC, industrie créative et culturelle, pour essayer de trouver un thème commun, le digital entertainment, donc tout ce qui est la numérisation, la musique, du cinéma, tout ce qui est intersection de tech et de ces métiers-là, avec, comme tu t'en doutes, le mot-clé pour 2024, intelligence artificielle, comme les NFT l'année dernière. Voilà, c'était vraiment un beau millésime encore. Avec beaucoup d'événements, comme je disais, pendant South by et pendant des événements officiels et des événements autour du festival.
Dis-moi, est-ce que ce qui vient de se passer à South by Southwest va avoir des répercussions pour la French Tech et pour les entreprises de la French Tech Austin sur l'année qui vient?
Oui, tout à fait. Tout ce qu'on a vu, les nouvelles personnes qu'on a rencontrées, les entreprises qui sont venues à South by, il y en avait plusieurs d'ailleurs qui étaient intéressées pour venir s'installer à Austin. Ça va impacter les événements que nous, on va organiser tout au long de l'année. On va reprendre, on va se nourrir de ces thèmes-là et on va incorporer les nouvelles entreprises qui viennent à Austin avec leur nouveau sujet. Le e-sport, par exemple, qui devient un gros sujet pour Austin.
Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. C'était un grand plaisir de venir à la découverte de la French Tech d'Austin et j'espère que nos auditeurs auront eu autant de plaisir que ce que j'en ai eu. Merci, Alex.
Plaisir partagé. Merci David.
À très bientôt.
À bientôt.
Merci Alex de la French Tech d'Austin pour cet échange. On passe de suite en studio avec Sébastien Gendron, le fondateur de Transpod. Bonjour Sébastien.
Bonjour David.
Sébastien va nous raconter un petit peu l'aventure extraordinaire qu'il vit dans son entrepreneuriat. Moi, juste pour introduire, je lui ai dit, et je lui dis chaque fois, je l'ai encore dit tout à l'heure, son histoire me fait penser à ce que je considérais de la science-fiction quand j'étais enfant et qui devient réalité aujourd'hui. Donc, très excité à l'idée de discuter avec toi, Sébastien.
Merci beaucoup. Ouais.
Peux-tu te présenter, s'il te plaît?
Ouais, donc Sébastien Gendron, donc PDG et cofondateur de Transpod, donc société canadienne qui développe le futur du transport à très grande vitesse, plus connu sous le nom de Hyperloop, même si on essaye un peu de se différencier par rapport au nom qui a été mis sur la place publique par notre ami Elon Musk. Et voilà, donc on développe ce nouveau système de transport, avec un premier projet d'infrastructure en Alberta, donc côté ouest canadien, pour connecter Edmonton et Calgary, avec également deux autres projets sur lesquels on travaille, donc l'autre au Texas pour connecter Dallas à Austin, et puis potentiellement les Émirats. On espère démarrer ça cette année là, pour démarrer pour une ligne entre Dubaï et Abu Dhabi. Et juste pour terminer, pour faire le lien un peu aussi avec la France, donc les activités de développement de la tech, c'est à Toronto et également en France du côté de Limoges.
Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la technologie, justement, de ton entreprise, avec des mots simples, bien entendu, mais pour qu'on comprenne tous c'est quoi derrière ce transport du futur?
Ouais, ce nouveau mode de transport, en fait, c'est assez simple. On développe un concept qui existe depuis le début du siècle dernier. Les premiers dessins datent de 1910, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout. Et ça consiste en fait à avoir des véhicules qui font la taille d'un wagon de train ou d'un bus, donc on est sur à peu près 25 mètres de long, qui se déplacent dans des tubes métalliques où on a enlevé, on va dire, 99% de l'air. Ce qui est en fait la base du concept. C'est-à-dire que l'idée, c'est ben, on enlève la quasi-totalité de l'air dans un tube pour permettre aux véhicules qui se déplacent dedans de ne plus avoir de frottement aérodynamique et en théorie atteindre des vitesses de 1000, 2000, 3000 km/h. Alors aujourd'hui, on est sur des vitesses maxi autour de 1000 km/h parce qu'il va nous rester un petit peu d'air dans le tube. Et la limite physique, je crois, c'est 1100 ou 1200 km/h où on commence à avoir des ondes de choc qui apparaissent. Donc c'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite quand on transporte des passagers. Donc limite 1000 km/h, ce qui est déjà très bien. Et avec voilà, des véhicules qui sont ni plus ni moins des avions sans ailes. 90% de la techno provient de l'aéronautique. Et l'infrastructure, on est sur un gros pipeline. Donc 4 mètres de diamètre, tube en métal, sur des poteaux en béton, avec... Alors comme ça, c'est pas très glamour. On a des architectes qui bossent dessus pour faire en sorte que ce soit joli, esthétique à l'œil, et avec dessus la possibilité d'installer des panneaux solaires pour récupérer un peu d'énergie. Voilà, donc en quelques mots, un système qui est plus simple qu'il n'y paraît et loin d'être de la science-fiction.
Ouais, tu me fais le lien parce que justement quand on se lance dans ce type de projet, on se dit comment est-ce qu'un seul homme et quelques hommes, on va dire, peuvent se lancer dans ce type de projet qui semble énorme. Est-ce qu'il y a une différence entre se lancer dans ce type d'entreprise et une entreprise, on va dire, entre guillemets, plus traditionnelle?
Alors, je suis peut-être un peu naïf. Merci pour la question, etc. Je pense pas. Je pense qu'on fait face exactement aux mêmes difficultés que quelqu'un qui souhaite monter un business plus traditionnel ou un artisan, une petite PME. On a toujours les soucis de trésorerie. On a des interlocuteurs qui, certes, sont différents, mais on n'a pas 10 fois plus d'interlocuteurs qu'une boîte normale. Quand on discute avec des gouvernements, ça paraît énorme comme ça, mais en fait, on discute juste avec une poignée de gens au ministère des Transports, etc. Les investisseurs sont différents également, mais voilà, il y a plusieurs catégories. Il y a des investisseurs pour mettre des petits tickets, des tickets un peu plus conséquents et des gros tickets. Et ceux avec qui on discute ont l'habitude d'investir dans des projets d'infrastructure, mais ils seront incapables d'investir dans une boulangerie, par exemple. Donc voilà, c'est un processus. L'ambition et l'impact peuvent être plus importants, certes, mais en même temps, voilà, moi, ça me paraît, quand je discute avec quelqu'un qui monte son business, il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne le pense.
Et donc, ben on est dans la tech. Ton activité en elle-même va disrupter un petit peu le futur du transport sur Terre, on va dire. Est-ce que ton activité est elle-même disruptée par des évolutions technologiques ou que tu as pu voir ces derniers temps ou tu es dans l'anticipation de certaines choses?
Je sais pas encore. On essaie d'y faire attention de manière régulière. Ce qui est très intéressant dans ta question, c'est une question qu'un investisseur nous avait posée il y a quelques années déjà. Et j'avais trouvé la question surprenante parce que c'est vrai que la nature même de ce qu'on fait, c'est de faire bouger les lignes et de révolutionner un petit peu le transport existant, dépoussiérer un peu une industrie ferroviaire qui est des fois paraît un peu vieillissante. Et à l'époque, l'investisseur en question nous a demandé, oui, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des camions autonomes, sachant que dans notre modèle économique, il y a quand même une grosse partie de fret, de cargo. Et ils l'avaient mis sur la table, il y a des sociétés qui développent des camions autonomes, etc. Est-ce que ça va vous impacter dans votre développement? J'avais pas su répondre à la question. La réponse, le bon sens, on disait, m'a fait dire que les autoroutes, de toute façon, ou les routes, que ce soit camions autonomes ou pas autonomes, vont saturer ou saturent déjà aujourd'hui. Et donc, il y a de la place pour un business comme le nôtre. Et je pense que ma réponse l'avait satisfait d'une certaine façon. Mais en même temps, voilà, au-delà de ça, il faut qu'on fasse attention. À un moment, Musk avait sorti une idée un peu farfelue où il voulait réutiliser les fusées qu'il est en train de développer pour aller sur Mars, pour aller de New York à Sydney en moins d'une heure, etc., en passant par l'espace. Pourquoi pas? Même encore plus récemment, pour reprendre un peu tout ce qui est sorti au niveau intelligence artificielle, on regarde comment, en fait, pas directement sur le produit que l'on développe, mais est-ce que ce sont des outils qui peuvent nous aider à accélérer et à être l'un des premiers acteurs sur le marché. Parce que si on n'est pas suffisamment ouvert d'esprit à essayer d'intégrer ces nouveaux outils et ces nouveaux produits dans notre développement, peut-être qu'un concurrent va le faire à notre place et du coup sera lui sur le marché avant nous et du coup ça nous aura impacté indirectement. Donc on essaye toujours d'être ouvert d'esprit, de ne pas rester dans notre zone de confort. J'ai toujours en tête des histoires comme... Bon, on en a plein, Nokia, BlackBerry, Kodak, même, on va dire, à une autre échelle, beaucoup de constructeurs automobiles qui aujourd'hui sont bousculés par Tesla. Je pense à Ariane Espace qui était content avec Ariane 5 et qui prenait SpaceX pour des imbéciles. Et voilà, donc toujours être humble et de regarder un petit peu, même si c'est des acteurs plus petits ou différents, toujours d'être curieux et de voir un peu ce que les gens développent pour encore avoir la capacité de s'adapter.
Une question me vient par rapport à ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, je disais que tu allais faire une disruption dans le transport du futur terrestre, mais est-ce qu'on peut imaginer également que ta solution puisse se passer sous l'eau?
Alors, oui et non. Ça me rappelle un commentaire d'un de nos partenaires, du patron d'une société de génie civil française qui m'avait dit « Tu sais Seb, tout est possible, mais ça dépend à quel coût. » Voilà. Et aujourd'hui, en fait, le marché du transport terrestre, enfin en tout cas des lignes potentielles pour Transpod à l'échelle d'un continent, c'est déjà énorme. En fait, quand on regarde déjà le marché nord-américain, on a... il n'y a pas de train à grande vitesse en Amérique du Nord, donc... connecter toutes les grandes villes, je veux dire, il y aura encore du boulot, on sera mort, quoi. Donc, on a également le Moyen-Orient, on a tout le continent australien. Après, d'un point de vue purement pratique, pour répondre spécifiquement à ta question, aujourd'hui, on ne considère pas l'avion encore on ne va pas remplacer l'avion pour des liaisons transatlantiques. Il n'y aura pas de ligne transpod pour connecter, Toronto ou Halifax à Brest dans un avenir très proche. D'un point de vue technique, serait très compliqué. On n'est pas sur des configurations, juste pour faire un petit rappel, le tunnel sous la Manche, il n'est pas sous l'eau, hein. Il est sous terre. C'est-à-dire que la profondeur de la Manche à ce niveau-là permet de creuser un tunnel sous le lit, on va dire, de la Manche. Et donc, il n'y a pas de... Si on a la possibilité de creuser à droite et à gauche ou même un petit peu au-dessus du tunnel, On va pas avoir de la flotte qui va tomber sur les trains qui passent ou qui traversent la Manche tous les jours. Et si on voulait faire la même chose au niveau atlantique, il faudrait descendre pas quelques mètres, mais quelques kilomètres sous l'Atlantique. Et il y a une dorsale aussi océanique en plein milieu. Enfin bon, c'est juste des défis astronomiques. Remarque, ne jamais dire jamais tant que j'y pense. Il y a des projets, j'ai vu des projets au niveau des pays nordiques avec des structures en béton flottant. Et c'est vrai, oui, on pourrait éventuellement, plutôt que d'être vraiment sous terre, sous l'eau à 4000 mètres de profondeur, on pourrait être à quelques centaines de mètres sous le niveau de la mer, mais ça demanderait une structure en béton énorme qui traverse l'Atlantique. Voilà, je pense qu'on est encore... Il y a du boulot. On va se contenter de construire quelque chose sur continent avant de...
Écoute, je te parlais de science-fiction, j'avais envie d'aller jusqu'au bout des choses, quoi.
Un autre sujet de science-fiction, enfin pas de science-fiction, mais si on parle de vitesse, je mentionnais là au début le fait que au niveau des infrastructures, il reste un petit peu d'air et donc on a potentiellement des ondes de choc qu'il faut qu'on évite. En discutant avec des gens du CERN, de l'accélérateur de particules. Eux, ils ont c'est aussi un gros tube, un peu plus petit que 4 mètres, donc sur un diamètre assez important. Et ils sont à des pressions très très faibles. Ils sont plusieurs zéros après la virgule, etc. Et ils nous ont confirmé effectivement qu'on pouvait avoir une infrastructure étanche avec des taux de fuite quasiment inexistants. On a eu quelques confirmations de certaines sociétés de génie civil qui nous ont dit que c'était possible. Donc en fait, en théorie, dans un avenir plus proche que la liaison transatlantique, on pourrait avoir des infrastructures en fait sans air du tout. Et donc avec, en théorie, la possibilité de dépasser les 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 km/h. Et donc demain, se projeter à avoir une ligne, on va dire, pas Toronto, mais New York-San Francisco, ou on va dire Toronto-Calgary. Et au lieu de mettre 4 heures de vol, ce qui est aujourd'hui le temps de vol entre Calgary et Toronto, on pourrait faire ça en moins d'une heure. Ce serait pas mal, hein?
Ce serait en effet pas mal du tout. Ce serait pas mal du tout.
Version 2.0 du système Transpod.
C'est pas mal. Tu me parles de Toronto, ben on va revenir un petit peu sur des choses plus toujours terrestres, on va dire, mais qui nous touchent de plus près. C'est pourquoi est-ce que tu t'es installé à Toronto justement ?
Alors je risque de décevoir un peu l'auditoire ou d'avoir une réponse assez simple à ta question. En fait, on habitait là, tout simplement. Moi, je travaillais avant pour le secteur aéro, Airbus, Bombardier, Airbus à Toulouse. Ensuite, j'ai trouvé un poste chez Bombardier à Montréal. Ensuite, on a déménagé pour Bombardier à Toronto. Et au bout d'un moment, voilà, toutes ces grosses boîtes me convenaient pas et j'ai eu envie de démarrer ma société. Et donc, on était à Toronto. Donc, du coup, on a démarré ça. Mais voilà, Toronto est une ville qui mérite à être connue. Ça fait quoi ouais, 12 ou 13 ans qu'on est... 12 ans, ouais. Presque 12 ans qu'on est ici. C'est une ville qui est pas mal. C'est une ville où il fait bon vivre, très internationale, les communautés se respectent. Je pense plus de tolérance que dans beaucoup d'autres villes. J'en discutais avec certains Français que j'avais rencontrés à Dubaï. On discutait un petit peu des villes où serait intéressant de vivre. Bon, eux, bien sûr, étaient fans de Dubaï, donc faisaient la promo de... Sans forcément faire la promo, mais vanter un peu les mérites de Dubaï. Et ils avaient Toronto en tête. Ils avaient Toronto en tête. Je pense que Singapour est également une ville intéressante. Et après, moi, j'ai un petit coup de cœur. J'ai vraiment aimé Sydney, chez les Australiens, là. Sauf que, y a un petit ou gros inconvénient en fonction des gens, c'est loin.
C'est loin.
c'est fou. C'est vraiment de l'autre côté de la planète, quoi. Donc, c'est une ville sympa et moi j'en ai encore une sur la liste. Ou un pays. Je pense que la Nouvelle-Zélande est pas mal aussi, quoi.
Et en termes d'investissement, Toronto est un endroit. Bon, tu étais là, c'était opportunistique, mais est-ce que en termes d'investissement, c'est un endroit qui facilite la vie pour investir pour un investisseur?
Mais déjà, si on prend un petit peu de recul, c'est le poumon économique du Canada. Il y a 6 millions de personnes entre Toronto et puis son agglomération de gens qui vivent là. C'est une des plus grosses villes en Amérique du Nord. Si on compte New York, Chicago, qui est à peu près similaire à Toronto. Il y a Los Angeles avant. Et après, je pense que c'est plus gros que San Francisco ou d'autres grosses villes américaines. Donc, il y a un écosystème qui est là. Et après, voilà, il faut réussir à y avoir accès. Au-delà, en fait, sur des projets en plus comme le nôtre, je pense que c'est des choses qui se développent au niveau international. Il faut pas, on ne s'est pas cantonné juste à se concentrer sur Toronto, mais c'était une bonne base de départ justement pour pouvoir regarder à l'international comment développer notre projet d'un point de vue accessibilité. On peut aller dans toutes les grandes capitales depuis Toronto, avec des vols quasi directs tout le temps. Il y a une place financière, le Canada reste un pays quand même assez stable, etc. Donc, et attractif aussi pour des investisseurs étrangers pour investir dans une boîte comme la nôtre. Donc tout ça, voilà, fait que...
Il y a des universités aussi.
Il y a des universités, voilà. Il y a un accès à des talents qui est intéressant, etc. Sans forcément faire de cocorico, mais on se rend compte au fur et à mesure que la France est, sur certains aspects, même un petit peu derrière. On comprend mieux un peu les avancements... de certaines universités nord-américaines plus qu'européennes. Et un truc très intéressant qu'on commence à voir, c'est-à-dire qu'on est sur la conception du coup d'un nouveau mode de transport, donc c'est déjà sexy en soi. Et le fait d'être à Toronto, sur une ville internationale, là on a une stagiaire qui nous a contacté, une jeune polytechnicienne qui veut venir faire son stage cet été. Donc je trouvais ça plutôt flatteur, alors qu'elle a sûrement plein d'autres opportunités. Pour aller bosser, je sais pas moi, chez Airbus, à la NASA ou d'autres. Et là, Transpod, Toronto, allez, j'ai envie d'essayer l'aventure pour quelqu'un qui est brillant. Quoi.
C'est une super anecdote. Tu as contribué à fonder la French Tech.
Ouais.
Ici à Toronto, tu n'es plus un membre du board de la French Tech, mais justement, cette vision extérieure, ça te permet certainement de peut-être nous donner un petit peu des idées sur, pour toi, la French Tech, de manière globale, pas celle de Toronto spécialement, comment elle pourrait être encore plus efficace que ce qu'elle espère être aujourd'hui ?
Déjà, c'est une initiative intéressante, mais initiative intéressante et qui, je pense, doit évoluer rapidement pour avoir identifié comme un réseau ou encore une initiative qui a une vraie valeur ajoutée en fait pour l'écosystème de la tech. Aujourd'hui, quand on écoute la French Tech, c'est avant tout une opportunité pour faire du réseautage. Ok, c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas assez suffisant. Et en même temps, c'est demander à des entrepreneurs français ou francophones qui sont à l'étranger de faire la promotion en fait de la France à titre bénévole. Donc ça joue beaucoup sur la fibre citoyenne et etc. Ou des fois même avec un petit sentiment de culpabilité où il faut qu'on fasse, ça fait partie de notre devoir de citoyen de faire la promotion de notre pays, etc. Mais c'est très fragile. Je trouve ça c'est pas assez solide pour construire sur l'avenir. Et c'était une des raisons d'ailleurs pour laquelle, je me suis retiré parce que je me retrouvais pas dans ce sens-là. C'était vraiment à sens unique, c'était faire la promotion du pays, donner un maximum de conseils aux nouveaux arrivants. Mais pour ceux qui sont ici depuis des années, c'est un peu à sens unique. Deux points qui méritent d'être considérés, je pense, c'est de permettre aux différents réseaux French Tech à l'international d'avoir une capacité d'investissement. Si demain, la French Tech est identifiée par l'ensemble des sociétés, on va dire si demain, il y a une start-up canadienne qui se dit « Waouh, la French Tech a un petit fonds d'investissement », pas besoin d'avoir des centaines de millions, hein, ça peut être quelques millions, et de distribuer des tickets de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 dollars d'investissement, etc., avec des passerelles sur la France pour pouvoir intégrer le marché français. Je pense que la French Tech aurait une vraie valeur à apporter à l'écosystème tech et à la France, au-delà de l'aspect purement communication, marketing et réseautage. Donc et en même temps, si on peut pousser la vision un petit peu plus loin, le gouvernement français pourrait utiliser ça à des fins stratégiques, comme le font certains pays, notamment comme les États-Unis. Je vois Microsoft là, qui vient d'investir au Camille un petit ticket dans une pépite française sur l'intelligence artificielle, hein, Mistral. Et Thierry Breton qui dit « Ouh là là, on va regarder ça de près, parce qu'on ne sait jamais, on ne veut pas que les Américains s'immiscent dans nos affaires. » Mais j'ai envie de dire à M. Breton, c'est trop tard. Alors je ne pense pas que Microsoft ait des vues négatives vis-à-vis de cette société française, mais c'est pas, faut pas pas être en réaction, faut être proactif. Et derrière, de permettre à un réseau, maintenant qu'il est bien établi, parce qu'il a été surtout poussé, je pense, depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Et maintenant, en fait, d'avoir ce réseau, eh ben, il faut l'utiliser, donner les moyens au French Tech à l'international de pouvoir identifier des sociétés intéressantes et qui peuvent aider le rayonnement de la France derrière et pourquoi pas être des éléments stratégiques pour le pays.
Merci pour ce point de vue.
Je ne sais pas si ce sera entendu.
Si on va essayer de faire un sens.
Par les bonnes personnes.
Si, si. Mais si par les bonnes personnes, ça, je ne sais pas. Merci en tout cas pour ce point de vue et pour ces conseils. C'est toujours important d'avoir des gens qui font...
Mon humble niveau. Hein. Après, oui, voilà, c'est vu de l'extérieur et de permettre également à des sociétés pas forcément françaises d'avoir des accès ou des processus accélérés pour créer des filiales en France, créer des emplois, avoir accès, si on est sur de la tech, avoir accès à peut-être de façon plus directe à tout ce qui est crédit impôt recherche, d'être identifié comme société innovante, etc. Vraiment intégrer une stratégie nationale.
Merci beaucoup. Dernier point, j'aime bien poser la question à la fin à nos invités. Est-ce que tu aurais des tips, un conseil à donner à des nouveaux arrivants à Toronto qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat?
Alors, il y en aurait plein, des conseils, etc. C'est assez difficile d'en faire ressortir un. Si je peux donner un avis peut-être plus général sur Toronto, alors tout dépend du type de projet, hein, mais c'est une ville dynamique. Tout de suite te renseigner sur les différents incubateurs qui sont sur place pour ceux qui veulent démarrer une boîte. On a passé pas mal de temps chez Mars, qui est un peu l'équivalent de la station F, etc. Donc il y a des choses à faire. Il y a du côté de Ryerson aussi. Il y a aussi The Creative Destruction Lab qui a un écosystème ici. Donc il y a pas mal de choses et je pense qu'il faut regarder ça dans un premier temps. Et ensuite, je pense qu'il faut pas se limiter à Toronto et au Canada. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Canada est un grand pays par sa taille, mais un petit pays par sa population. C'est, je pense, moins de la moitié de la population française. Je crois qu'il y a 35 millions d'habitants. Et donc, il faut essayer de développer aussi ces réseaux dans les autres. Et je crois que c'est 70 ou 90% de la population canadienne vit dans les grandes villes. Nous, typiquement, on n'a pas... L'Ontario étant le poumon économique, c'est à la fois intéressant, mais en même temps, la demande n'était pas forte vis-à-vis de ce qu'on fait. Et on a été chercher un premier projet d'infrastructure en Alberta. En Alberta, qui a également une approche entrepreneuriale un peu plus cow-boy, un peu plus business. Ils sont un peu plus directs, ce qui colle mieux avec notre culture, on va dire, latine. Donc, personnellement, en tant que Français, je m'entends mieux avec les gens de l'Alberta qu'avec les gens de l'Ontario. Donc, il ne faut pas, juste se cantonner à ce que cette ville a apporté, mais également regarder ce qui se passe au Québec, ce qui se passe en Alberta. Et après, moi, il y a une région que je ne connais pas du tout, c'est la Colombie-Britannique, et je pense que c'est pas mal. Donc, en fonction des envies de chacun, pour ceux qui aiment bien la nature, et pas forcément les grands espaces, mais on connaît la Colombie-Britannique pour être un petit peu plus porté sur tout ce qui est, tout ce qui est nature, donc pas hésiter à aller là-bas pour tout ce qui est business économique, la bourse du Canada. Ah voilà, c'est la bourse de Toronto, c'est ici. Si on a un business peut-être un peu plus francophone, pas hésiter d'aller au Québec. Et pour et puis après il y a l'industrie pétrolière, et pour ceux qui sont un peu plus cow-boy dans leur attitude, pas hésiter d'aller regarder du côté de l'Alberta.
Merci beaucoup Sébastien Gendron pour cette interview, c'était très très enrichissant, très intéressant, et j'étais excité, j'avais raison de l'être. Merci pour toutes ces informations.
Avec plaisir, merci David, c'était sympa.
Merci. Donc c'était David Manetti pour la French Tech Toronto et cet épisode du mois de mars. Merci encore une fois pour nous écouter. À bientôt, au revoir.
C'était votre nouvel épisode du podcast de la French Tech Toronto avec David Manetti, un invité en studio et un invité du bout du monde. Retrouvez-les tous les avant-derniers mardis du mois à 20h sur Choc FM 105.1.